12h30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Anissa m'accompagne.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans une minute, place à l'info. Et dès 13h, on fait bouger la France ensemble. Le Laval virtuel vient tout juste de s'achever. Et c'est le salon numéro 1 en Europe pour les technologies du virtuel. Vous allez voir qu'aujourd'hui, elles sont partout dans notre quotidien. Même là où on ne les attend pas. A tout de suite.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
La famille de la septuagénaire blessée à Nice samedi va porter plainte. La militante d'attaque est hospitalisée. Sa famille n'a pas aimé les mots d'Emmanuel Macron dans Nice matin et elle le fait savoir. Opération remaniement au gouvernement, exit Nathalie Loiseau. La ministre devient tête de liste La République En Marche aux européennes. On verra si cela entraîne d'autres mouvements dans l'équipe d'Édouard Philippe. La visite du président chinois en France après le privé ce week-end, place à l'officiel ce lundi sur fond de manifestation des opposants. Ce sera cet après-midi. Le tabac, de moins en moins de fumeurs en France, c'est la bonne nouvelle. 1 600 000 d'entre vous a arrêté la cigarette depuis 2016. À suivre aussi la bataille de Verdun qui sort des programmes scolaires. On verra pourquoi les prestations funéraires épinglées par la répression des fraudes. Le deuxième match des Bleus ce soir en éliminatoire de l'Euro 2020, ce sera face à l'Islande. Et le retour de Manodou dans les bassins. La météo, Elena Morna, du vent et de la fraîcheur.
Fraîcheur qui gagne le sud après la grande douceur de ce week-end. Quant au vent, vent de nord, il accentue cette sensation de froid. Alors attention, ça va souffler de plus en plus fort cet après-midi et surtout cette nuit dans le couloir rhodanien ainsi qu'en Provence, Raphaël.
Merci Elena, on vous retrouve tout à l'heure. Météo complète, ce sera juste avant 13h.
Europe 1.
Elle s'appelle Geneviève et depuis samedi, vous avez forcément vu son visage car cette militante d'attaque a été blessée lors de la manifestation des Gilets jaunes à Nice. La septuagénaire a été touchée alors qu'elle se trouvait dans un périmètre interdit lors d'une charge de policier. Elle est depuis à l'hôpital. Une enquête est en cours sur les circonstances dans lesquelles cela s'est produit et son avocat doit d'ici ce soir déposer plainte au nom de la famille. Famille Côte Vernuccio a pu joindre ce matin pour Europe 1 à commencer par la fille de Geneviève, Delphine Parent, qui nous donne de ses nouvelles.
À l'instant même, on vient de savoir qu'elle aurait passé une bonne nuit, qu'elle serait en train de passer des examens complémentaires et de contrôle. Hier, elle était comme groggy, hein, confuse, un peu perdue, mais consciente. Les médecins nous ont annoncé que le scanner d'hier était identique à celui de la veille, donc qu'il n'y avait pas d'aggravation ni d'amélioration. Là, nous sommes toujours dans les 48 heures décisives pour voir l'évolution.
Est-ce qu'elle vous a parlé de ce qui s'était passé ?
La première chose qu'elle m'a dite, c'est « je ne me souviens que du gendarme qui m'a chargé et de plus rien ».
Emmanuel Macron a surtout dit qu'il lui souhaitait un prompt rétablissement et une forme de sagesse.
Oui, oui. On se demande qui a besoin d'une forme de sagesse. Je trouve pas ça digne d'un président. Je suis la fille d'une personne qui a été blessée. Comment voulez-vous qu'on prenne les propos de ce monsieur ? Non, mais franchement, je suis écœurée. Je suis écœurée.
Écœurée, dit Delphine Parent, la fille de Geneviève. Bonjour, Mickaël Darmon.
Bonjour.
Est-ce que les mots d'Emmanuel Macron dans Nice matin étaient les bons ?
En tout cas, ce sont les siens, hein, du Macron pur jus, avec un bon zeste de provocation, hein, souhaiter une forme de sagesse à une dame de 70 ans de la part d'un homme de 40 ans, bah, ça montre que le président de la République continue à ne pas s'embarrasser avec les codes. Hein, et il le montre d'ailleurs une nouvelle fois au risque de choquer. Il a bien saisi également le président qu'il s'agit d'une famille de militants altermondialistes, donc il en profite également pour affronter donc, des opposants politiques en reprenant son principe. Aucune compassion pour les manifestants qui se rendent dans les lieux interdits. Et il le rappelle, sa vision d'ailleurs des manifestants depuis des semaines, ceux qui sont sur les lieux où c'est interdit, eh bien, se rendre complice des violences. Dans le cas précis, il souligne que la dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre, c'est la version du président. Et il la renvoie à sa responsabilité sans s'apitoyer sur son sort. On verra bien comment d'ailleurs la justice traitera ensuite ce dossier après les déclarations présidentielles.
Ce message-là, Mickaël, il n'est pas anodin non plus parce que on est à Nice. Nice, ville de droite.
Oui, absolument. On l'a bien noté. Ville où on vote beaucoup à droite. Il rappelle le président que bien le gouvernement a pour mission de faire respecter l'ordre. C'est ce qui s'est passé. Après des heures et des heures de marathon présidentiel, on voit bien que le parler cash est de retour et qu'avec cette crise, Emmanuel Macron a bien compris que la politique, c'est un métier.
Merci Michaël Darmon. Emmanuel Macron qui va voir son équipe gouvernementale recomposée puisque dès ce soir, Nathalie Loiseau quittera le gouvernement. La ministre aux Affaires européennes va devenir tête de liste La République en marche pour les élections européennes. Toute la question, Adrien Beck, est de savoir si l'exécutif va en profiter pour effectuer un remaniement plus large.
Effectivement, il pourrait y avoir du mouvement. Alors une chose est sûre, il faudra remplacer Nathalie Loiseau. Le nom qui revient, vous ne le connaissez sans doute pas, hein. Clément Beaune, conseiller Europe et G20 des Emmanuel Macron. Ça, c'est s'il y a un remplacement poste pour poste, à moins que Jean-Yves Le Drian assure l'intérim quelque temps. Alors, si on élargit un peu, il y a aussi le cas de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement qui aimerait bien partir mener la bataille de Paris. C'est peut-être un peu tôt, juge-t-on à l'Élysée et Matignon. Le président n'est pas motivé pour que Griveaux parte en pleine crise, croit savoir un député. Potentiellement, il faudra tout de même trouver quelqu'un d'autre pour porter la parole de l'exécutif. Là encore, plusieurs noms reviennent. Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique. Elle s'est occupée du pilotage du grand débat national. L'ancienne lobbyiste de chez Danone s'est mise à faire de la politique, observe un conseiller ministériel. Et surtout, son nom est poussé par Édouard Philippe. On évoque aussi le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, ou encore le secrétaire d'État Gabriel Attal, qui pour le coup ont le désavantage d'être des hommes à l'Élysée. Comme à Matignon, on martèle qu'on sera attentif au respect de la parité au sein du gouvernement, même si pour l'heure, ce n'est déjà plus le cas.
Merci Adrien. Emmanuel Macron qui en attendant dînera lui ce soir avec le président chinois après le repas privé à Beaulieu. Cette fois c'est à l'Élysée que les deux chefs d'État se retrouveront à table puisque Xi Jinping entame ce lundi le volet officiel de sa visite en France. La France qui veut essayer, et on le voit, de peser à côté du géant chinois. Pas simple mais forcément indispensable, comme le dit d'ailleurs Thibault de Montbrial, c'est le président fondateur de l'IFRI.
Aujourd'hui, les États-Unis et la Chine livre bataille en quelque sorte partout dans le monde, mais en particulier en Europe.
Et nous, on est les témoins ou on est les victimes ?
Ni témoins des victimes, on est un enjeu. Tout l'enjeu, c'est que les Européens deviennent aussi acteurs, pas seulement voyeurs ou proies.
Ça veut dire quoi ? Qu'il est déjà trop tard ? Que l'Europe n'a pas les moyens de rééquilibrer ses relations avec la Chine ?
Non, je crois qu'il n'est jamais trop tard. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les États-Unis se distancient de nous et que donc nous devons nous préparer à cette situation qui va dominer les décennies prochaines. Parce qu'en 2049, c'est le 100e anniversaire de la victoire de Mao et l'objectif ouvert de la Chine, c'est d'être la première puissance mondiale d'ici là et probablement avant. Donc il est essentiel pour l'Europe de devenir un peu plus maîtresse de son propre destin. C'est ça tout l'enjeu.
Thibault de Montbrial ce matin sur Europe 1 avec Nikos Aliagas.
Il est 12h37, vous écoutez Europe 1, la suite du journal, Raphaël Duchemin.
Et un chiffre à retenir aujourd'hui, celui du nombre de fumeurs. Il est en baisse depuis 2016, vous êtes 1 600 000 à avoir arrêté la cigarette. Il y a même eu une accélération sur l'année dernière, les 6 premiers mois. Plutôt de bon augure avant le comité interministériel consacré à la santé qui se tiendra cet après-midi. Mélanie Gomez, quelles sont les raisons avancées ?
Alors en fait, il y en a plusieurs mesures ces deux dernières années qui ont conduit à cette chute spectaculaire du nombre de fumeurs. D'abord, la principale, c'est l'augmentation très importante du prix du tabac. Et ça, tous les spécialistes le disent, c'est la mesure la plus efficace pour faire arrêter les fumeurs. Depuis 2017, le prix du paquet augmente tous les 6 mois et ce sera comme ça jusqu'en 2020 avec un paquet qui va donc atteindre les 10 euros. En plus de cela, il y a aussi eu la mise en place du paquet neutre en 2016. Ce paquet couleur cacadois qui pourrait donc avoir notamment découragé des jeunes de s'y mettre, c'est-à-dire que cela a contribué à dénormaliser l'image du tabac. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins normal, beaucoup moins cool pour un jeune de fumer. Enfin, cette baisse, on la doit aussi au très médiatique Mois sans tabac, qui chaque année, en novembre, désormais rassemble plus de fumeurs qui décident de lâcher le tabac ensemble durant au moins 30 jours. Et pour cette opération, les autorités ont vraiment mis les moyens, 100 millions d'euros pour la financer, ainsi que des campagnes de pub anti-tabac. Pour finir, la dernière mesure qui a porté ses fruits, c'est le remboursement des patchs et autres substituts nicotiniques. Voilà. Depuis le 1er janvier d'ailleurs, il n'y a même plus de plafonnement annuel. Donc si vous avez une ordonnance, vous pouvez être remboursé et même ne pas avancer d'argent en pharmacie avec le tiers payant. Et cela, autant de fois que nécessaire dans l'année, tant que vous en avez besoin pour arrêter de fumer.
Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1 Matignon, qui dans ce comité confirme aussi que les tests d'angine vont être et généralisés et remboursés. Ce sera le cas dès l'année prochaine. Objectif, déterminer si c'est viral ou d'origine bactériologique et éviter du coup la prescription d'antibiotiques. Et puis on attend aussi, notez-le, toujours en matière de santé, de savoir si 7 nouvelles marques d'implants seront ou non interdites en France. Un projet de décision est en cours, dit l'ANSM, car elles seraient susceptibles de constituer un danger rare mais grave de survenue d'un type de cancer chez les femmes qui en portent. Pour l'instant, aucune décision n'a encore été prise. Voilà ce que précise le gendarme de la santé.
Il est 12h39. Europe 1.
Dans un instant, vous restez avec nous. Un nouveau procès pour Abdelkader Mera. C'est l'aîné de la famille Mera. A tout de suite.
Il est 12h42, vous écoutez Europe 1, la suite du journal, Raphaël Duchemin.
Le frère de Mohamed Mera, de nouveau devant la justice depuis ce matin. Abdelkader Mera est entendu devant la cour d'appel de Paris. Il avait été, souvenez-vous, en 2017, condamné à 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes, mais en revanche acquitté pour le chef de complicité. C'est la raison pour laquelle les familles des victimes du tueur au scooter de Toulouse tenaient absolument à cette nouvelle audience, Chloé Triomphe.
Oui, et ces familles sont toutes revenues pour montrer leur détermination et leur peine intacte. Elles ont repris exactement les mêmes places dans la salle qu'en 2017 pour écouter le rappel des faits ce matin par la présidente. Un condensé toujours difficile à entendre pour elles et qui ne modifie en rien la conviction de Samuel Sandler, qui a perdu son fils et deux de ses petits-enfants tués par Mohamed Mera à l'école juive de Toulouse. Selon ce grand-père, Abdelkader Mera doit être condamné comme l'aurait été son frère Mohamed.
C'est donc qu'on démonte sa complicité, qui faisait l'ombre d'aucun doute. Donc je demande simplement que justice soit faite et je suis profondément convaincu qu'il est complice.
Le procès doit durer un mois, avec notamment la venue des enquêteurs sur le parcours de radicalisation des deux frères et l'audition de la mère Mera, un moment qui avait cristallisé toutes les tensions il y a 2 ans.
Chloé Triomphe pour Europe 1 au Palais de Justice de Paris.
Il est 12h43, la suite du journal sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
À Bruxelles, la Commission européenne a terminé ses préparatifs en cas de no deal avec Londres. Londres où justement Theresa May joue cette semaine une partie serrée face au Parlement britannique. Ce matin, la Première ministre a réuni son gouvernement avant d'affronter cet après-midi les députés sur le processus de sortie de l'Union européenne. Anaïs Cordoba, l'hémicycle est bien décidé à lui mettre des bâtons dans les roues pour l'affaiblir.
Oui, la Chambre des communes s'apprête à attaquer de front l'autorité du gouvernement. Cet après-midi, les députés vont tenter de prendre le pouvoir sur le processus de sortie de l'Union européenne. Un amendement qu'ils ont déposé leur permettrait de tenir une série de votes indicatifs sur le Brexit dès ce mercredi, avec plusieurs options à la clé. Sortie sans accord, Brexit soft, second référendum, etc. Si cet amendement passe, c'est le risque pour Theresa May et son gouvernement de perdre définitivement la main sur la stratégie sur le Brexit. Car pour l'instant, la Première ministre est toujours dans la même impasse. Les eurosceptiques de son parti refusent toujours de soutenir son projet de Brexit. Pire, ils lui posent désormais cet ultimatum. Ils voteront pour son accord en échange de son départ. Un chantage repris et appuyé par l'influent tabloïd The Sun ce matin, qui retire son soutien à la Première ministre et titre en une « Theresa, votre temps est écoulé ».
Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1. Aux États-Unis, Donald Trump retrouve des couleurs. Le procureur spécial Mueller a rendu les conclusions de son enquête sur une probable collusion avec la Russie pendant la présidentielle américaine de 2016. Il a conclu à l'absence d'éléments pour prouver une quelconque entente avec Moscou. Le président s'est dit totalement disculpé, même son de cloche évidemment du côté du Kremlin qui réfute ce matin encore toute ingérence dans ce scrutin.
Il est 12h45, vous écoutez Europe 1, la suite du journal, Raphaël Duchemin.
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes faisait ce matin son bilan annuel et vous allez voir qu'il y a de quoi dire. La DGCCRF a notamment épinglé la filière kiwi, 12% des fruits vendus comme français venaient en fait d'Italie, mais ce n'est pas tout. Olivier Samin, vous êtes à Bercy, elle a aussi relevé un taux anormalement élevé de fraude dans les prestations funéraires.
Et oui, près de 600 sociétés de pompes funèbres ont été contrôlées avec des anomalies constatées dans 67% des établissements. Anomalies qui, la plupart du temps, ont donné lieu à des avertissements de l'administration. Mais parfois, il a fallu aller plus loin. 52 établissements se sont vus infliger des amendes administratives. Le cas le plus fréquent d'anomalie, c'est l'inclusion dans le devis de prestations funéraires qui sont présentées comme obligatoires alors qu'elles ne le sont pas. Frappés par le décès d'un proche, les familles sont souvent prises au dépourvu. Il leur est difficile de faire jouer la concurrence. Elles prennent pour argent comptant les clauses qui leur sont présentées, sachant qu'elles doivent prendre leur décision en 24 ou 48 heures. Il y a pourtant un devis type qui a été imposé au secteur il y a 20 ans pour protéger les familles. Mais ce devis type apparaît trop limité. Dans son rapport publié il y a quelques semaines, la Cour des comptes préconise une révision de ce devis type et un renforcement des contrôles, notamment de la part des collectivités locales.
Olivier Samin à Bercy pour Europe 1. Après 3 années de hausse, les frais bancaires sont en baisse. Cette année, les tarifs des banques sont un peu moins chers qu'en 2018. Pas de quoi non plus s'affoler. Nous gagnons en moyenne 2,20 € sur notre pouvoir d'achat. Si les établissements ont décidé de moins prélever, c'est à cause 1. du blocage général des tarifs annoncés en début d'année et 2. de la concurrence des néobanques et des banques en ligne.
Il est 12h46 sur Europe 1, la suite du journal. Raphaël Duchemin.
Va-t-il y avoir bataille autour de la bataille de Verdun ? Car cette page de notre histoire ne figure pas dans les nouveaux programmes scolaires destinés aux élèves de première. C'est un autre épisode qui a été préféré, en l'occurrence la bataille de la Somme. Évidemment, Virginie Salmen, ça fait réagir. Ça veut dire quoi ? On n'enseigne plus la bataille de Verdun à nos enfants ?
Non, ça ne veut pas dire ça. Et d'abord, il faut préciser que la bataille de Verdun ne figurait pas non plus dans les précédents programmes, donc rien n'a changé. Mais pourtant, les professeurs l'enseignent évidemment d'abord en troisième puis en classe de première. Puisque la Première Guerre mondiale est au programme, il est impensable de faire l'impasse sur Verdun. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les programmes ne sont jamais exhaustifs. Il y a des chapitres, des thèmes, mais tout le contenu n'est pas écrit in extenso dans le programme. Alors comment cette polémique est née ? Tout part d'un article de l'Est républicain et d'un autre de Valeurs Actuelles ce week-end, dans lesquels le maire de Verdun s'insurge que la bataille de la Somme soit mentionnée dans les programmes et pas celle de Verdun. C'est une manipulation politique pour Thibaut Poirot, professeur d'histoire dans un lycée de la Marne.
J'avoue que je ne comprends pas trop bien comment des politiques peuvent se faire avoir pour quelque chose qui finalement n'existe pas. Il est facile de partager un sentiment d'indignation et de dire que Verdun n'est plus enseigné, ce qui est faux. La moindre des choses aurait été de vérifier auprès des premiers intéressés, c'est-à-dire des enseignants, que cette information était justifiée et exacte. Aujourd'hui, le ministère nous interdirait de parler de Verdun. De toute façon, on en parlerait quand même. Comment peut-on comprendre la Première Guerre mondiale sans évoquer cela ?
Et oui, les professeurs soupçonnent des courants d'extrême droite de vouloir insister sur certains épisodes de l'histoire. Et c'est aussi encore une façon de critiquer le travail des professeurs.
Merci Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1.
Il est 12h48.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Nom Manodou, prénom Florent, profession nageur, retraité, oui mais qui replonge. À tout de suite.
Il est 12h51, vous écoutez Europe 1, la suite du journal, Raphaël Duchemin.
France-Islande, c'est ce soir, mais cette fois les Bleus jouent à domicile pour le deuxième match des éliminatoires de l'Euro 2020. Après le succès en Moldavie, les Bleus sont évidemment sur un bon démarrage, sauf que ce soir, Cyril de la Morinerie, on a quand même changé de braquet pour ce deuxième adversaire.
Oui, l'Islande c'est plus fort que la Moldavie, une sélection quart de finaliste de l'Euro 2016. Battu par la France et qualifié pour la dernière Coupe du Monde. Mais ce n'est pas le Brésil non plus. Les Islandais restaient sur une série de 15 matchs sans victoire avant leur timide succès vendredi dernier face à Andorre 2-0, l'adversaire le plus faible du groupe. Mais Didier Deschamps, vous allez l'entendre, se méfie car en octobre dernier, c'était un Guingamp en match amical. L'Islande avait pour la première fois décroché un nul en France de partout. Les Bleus qui étaient menés 2-0 s'en étaient remis à leur sauveur Kylian Mbappé. Un mauvais souvenir pour le sélectionneur.
C'est la vérité de ce match-là, où on n'y était pas. Donc, j'avais pas de doute en octobre. Je sais très bien la qualité de cette équipe islandaise. Leur état d'esprit, c'est un peu dans leur ADN. C'est une équipe qui lâche rien, qui donne rien. Donc voilà, on va avoir du répondant. Ça, c'est une évidence.
Voilà, Didier Deschamps sait bien que ce pays insulaire de 340 000 habitants seulement, autant que la ville de Nice, possède de véritables guerriers sur le terrain, avec des joueurs qui, pour certains, jouent en Angleterre, le meilleur championnat du monde. De vrais footballeurs spécialistes de la passe longue, des ballons qui arrivent directement dans la surface de réparation. Grâce à l'Islande, on a aussi découvert le clapping il y a 3 ans lors de l'Euro.
Oui.
France, normalement. Voilà, une célébration qui fait aujourd'hui fureur chez les supporters français.
Bon, on vous retrouve avec le clapping.
Il y aura un clapping ce soir, c'est
oui,
sûr.
Oui, forcément, 20h45.
Pour célébrer, on espère la victoire.
Évidemment, et fil rouge, évidemment, avec vous ce soir sur Europe 1 à partir de 20h45. Lui replonge, c'est Florent Manaudou, il renoue avec les bassins, pas de date fixée encore pour le vrai retour à la compétition, mais il a déjà repris l'entraînement et ce matin, après un break de presque 3 ans, on a pu notamment voir le joueur sur les terrains de hand, et bien le champion a donné sa toute première conférence de presse et avant de se remettre à l'eau, vous allez l'entendre, il a quand même une petite appréhension.
Oui, il y en a une, mais c'est aussi pour ça que je le fais. Je suis un homme de challenge, j'aime bien me mettre hors de ma zone de confort. Je l'ai fait dans plusieurs domaines. Quand j'ai arrêté de nager pour faire du hand, c'était aussi un challenge perso et sur d'autres choses aussi, sur d'autres projets. Et là, j'ai envie de reprendre et c'est pour ressentir cette adrénaline, ce stress et cette appréhension. Donc bien sûr qu'il y en a et je pense que c'est ce qui me fera avancer un peu plus vite. Il me manquait de me sentir... bon dans ce que je fais de bien. Il me manquait d'être en compétition et je sais pas, d'être bon dans ce que je fais. J'ai envie de sentir les meilleurs du monde autour de moi et d'essayer de débattre. En fait, je me suis levé un matin en décembre, je me suis dit bon, je recommence. Mais je me suis aéré la tête pendant 3 ans. Et la carotte de Paris 2024, elle est assez grosse quand même.
Florent Manaudou au micro Europe 1 de Corinne Boulou et puis des archéologues, je vous le dis parce que moi ça me passionne, on parlait de l'Islande tout à l'heure, viennent de découvrir ce matin en Norvège une épave de navire viking enfouie dans une région riche en vestiges qui éclaire évidemment l'histoire de ces redoutables guerriers et navigateurs du Moyen-Âge. L'embarcation a été détectée à l'aide d'un géoradar à l'intérieur d'un tumulus recouvrant une sépulture dans un parc du comté de Vestfold, au sud-est d'Oslo.
Voilà une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Raphaël Duchemin. On vous retrouve dans quelques instants pour les grands titres de ce 25 mars.
Europe 1. Restez avec nous. On va passer de l'histoire à la réalité virtuelle. Vous allez voir qu'elle s'invite dans nos vies et pas uniquement pour jouer. C'est la France qui bouge. On vous attend sur Europe 1, évidemment au 3921 et aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1.